fremde Kulturen ins Rüebliland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Hallo zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenêtre sur l'Afrique, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Am Mikrofon begleitet euch Sylvain Amos. Amis fidèles auditeurs, bonsoir, ravi de vous retrouver, nombreux à l'écoute de Fenêtre sur l'Afrique, un programme panafricain de Radio Canal K. Le Sénégal connaît depuis quelque temps une zone de turbulence et à l'approche des élections présidentielles de 2012, Alléou Outine, président de la RADO, rencontre africaine des droits de l'homme, sera notre invité pour discuter de la politique sénégalaise à l'approche des élections présidentielles dans ce pays, le Sénégal. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a été formellement inculpé jeudi dernier et placé en détention préventive pour crimes économiques, ainsi que son épouse. Maître Pouma François, un des avocats de Laurent Gbagbo, répondra dans une demi-heure à nos questions en direct depuis la France. Et au Togo, Brigitte Amegami de Synergie Togo, un membre influent de la diaspora togolaise, est au front avec le FRAC, Front républicain pour la tenance et le changement. Elle nous fera également ses analyses sur la situation actuelle au Togo. Eh bien, l'équipe est au complet. Gisela Rossato à la supervision générale. Josué Maoli et Esteban Gagnon sont à la programmation. Romain Koudodi et Prince Freddy nous portent soutien, et toujours leur soutien permanent. Parfaite collaboration de nos correspondants au Togo. Il s'agit de Rodri Lawson et de Fabi Kwasi. Réalisation et présentation, Sylvain Amos. Excellente soirée à toutes et à tous. Dans un instant, nous allons commencer l'émission avec l'éditorial de la soirée. La Côte d'Ivoire, un piège sans fin. Le plus important, je crois, c'est d'avoir amené le peuple à avoir confiance en lui-même, à comprendre que finalement, il peut s'asseoir et créer son développement. Essayer d'oublier son passé douloureux dans la réconciliation qui ne doit pas être un vain mot des hypocrites. Qu'il peut s'asseoir et créer son bonheur, il peut dire ce qu'il désire. Et en même temps, sentir quel est le prix à payer pour ce bonheur ? Fratricide au Burkina Faso, Thomas Sankara et la France-Afrique. Laurent et Simone Gbagbo savent désormais à quoi s'en tenir. 4 mois après leur arrestation et assignation surveillée, c'est donc chose faite jeudi dernier. Le couple présidentiel est inculpé de 5 chefs d'accusation, à savoir vol aggravé, détournement de deniers publics, concussion, pillage et atteinte à l'économie nationale. Des infractions économiques, selon le procureur Simplice Kouadio Koffi. Alors qu'une 60aine de militaires ont été inculpés, dont 40 sont incarcérés dans des camps militaires à Korogo et à Abidjan, les enquêtes préliminaires sur les crimes de sang commis au cours de la crise politique continuent. Pour l'heure, donc, l'ancien président n'est pas accusé d'atteinte à la sécurité de l'État, contrairement à nombre de ses proches. Mais le gouvernement de Alassane Ouattara espère que la Cour pénale internationale, qui n'a pas encore ouvert d'enquête sur les crimes les plus graves, inculpera et transférera à la Haye l'ancien couple présidentiel. D'ores et déjà, il y a lieu de dénoncer et de craindre une justice des vainqueurs sous le nouveau président Ouattara. Car des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre ont été commis par les deux camps pendant la crise. Ce n'est pas une affirmation gratuite, c'est une accession car il suffit seulement de lire le rapport des droits de l'homme international de Women's Rights pour s'en convaincre. Nous entendons donc des personnalités pro-Ouattara soient-elles aussi inquiétées et pourtant par le président et son ministre, j'ai nommé Ouattara et Soro, qui hier, rebelles sont devenus aujourd'hui des esprits fréquentables partout dans le monde. Cynisme, quand tu nous tiens. La CPI de Luis Moreno gagnera pour une première fois une crédibilité s'il inculpait et le club présidentiel et le duo Ouattara Soro et aussi surtout la France paternaliste. Par finir, si on me pose la question de savoir à quand la paix des braves en Côte d'Ivoire, je répondrai que le feuilleton ne fait que commencer et que c'est un piège sans fin. Romain Koudjadi.
Ne tirez pas sur l'ambulance, la Côte d'Ivoire est blessée. Ne tirez pas sur l'ambulance, la Côte d'Ivoire est touchée. Je t'aime, ma Côte d'Ivoire. Je t'aime, ma Côte d'Ivoire. Je t'aime, ma Côte d'Ivoire. Je t'aime. Tu sais bien que tôt ou tard, un jour nouveau se lèvera. L'arc-en-ciel reviendra. Maman, je prendrai soin de toi. Tu n'aurais dû jamais récolter la tempête. Non. Toi qui n'as jamais sémé le vent. Après la pluie, le beau temps. Enfants. Ne tirez pas sur l'ambulance. La Côte d'Ivoire est blessée. Ne tirez pas sur l'ambulance. La Côte d'Ivoire est touchée.
Eh bien, ne tirez pas sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est blessée, chantée par Alpha Blondy, l'Ivoirien. Plusieurs centaines de milliers de personnes, selon les organisateurs, ont assisté samedi dernier à Dakar à un meeting du président sénégalais Abdoulaye Wade qui veut aussi prouver à l'opposition qui conteste sa candidature à la présidentielle de 2012 que les Sénégalais sont encore derrière lui. Ce grand meeting s'est tenu peu après un rassemblement d'opposants qui a regroupé beaucoup, beaucoup de partis politiques et sociétés civiles. Il y a un mois, le Sénégal avait connu des émeutes qui avaient fait une semaine de 100 blessés devant l'Assemblée nationale au moment où les députés examinaient un projet de loi décrié visant à faire élire un président et un vice-président avec un minimum de 25% des voix au premier tour de la présidentielle de février 2012. Et pour savoir ce qui se passe dans ce pays, et nous avons contacté Ali Outine, président de la RADO et rencontre africaine des droits de l'homme. Ali Outine, que nous devons et recevoir samedi passé et que ça n'a pas marché cette fois-ci. Nous avons réussi à l'avoir et j'espère qu'il est déjà en ligne. Nous allons tenter de le prendre depuis Dakar. Bonsoir, monsieur Alioutine.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous dans cette émission et Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K. Vous êtes bien sûr en direct depuis Dakar au Sénégal. Vous êtes panafricaniste, président de la RADO, rencontre africaine des droits de l'homme. Le Sénégal, votre pays, va mal, hein, et pour cause, pas facile d'avoir de l'électricité pendant des heures, surtout avec ce mois béni du Ramadan. Alioutine, imputez-vous la responsabilité au gouvernement Ouad ou à la crise économique qui sévit depuis le pays et qui frappe toute la sous-région?
Je ne parle même pas du gouvernement Ouad, je l'impute au président Abdoulaye Ouad. C'est un président qui a fait 26 ans d'opposition et durant lesquels, quand même, il a fait la promotion de la démocratie, de l'état de droit. Il a beaucoup contribué à l'alternance politique au Sénégal. Élu en 2000, il a fait une constitution où il a deux mandats, où lui-même en 2007 a dit qu'il n'avait pas droit à un troisième mandat. Il a dit très clairement qu'il avait bloqué la constitution à deux mandats pour éviter que des présidents restent pendant 19 ans ou 20 ans comme ses prédécesseurs. Et maintenant, il est tenté à violer la Constitution pour prendre un troisième mandat. Et face à cela, bien entendu, il y a une grande coalition composée d'organisations de la société civile, d'organisations citoyennes, de personnalités et d'organisations politiques pour dire non à un troisième mandat, parce que c'est un troisième mandat qui va créer le désordre, qui va créer l'instabilité politique, qui va créer des tensions inutiles, d'autant plus que c'est vraiment inconstitutionnel. Voilà la première raison des tensions politiques et des troubles que nous avons, nonobstant bien entendu le climat social, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de frustration qui explique l'explosion du 23 juin, dont, comme vous le savez, hein, surtout dans ce pays où il y a beaucoup de corruption imputable à son gouvernement, aux gens qui le soutiennent, aux gens de son parti, beaucoup de scandales financiers. On ne le compte plus, sans compter maintenant la dérégulation des institutions qui font que le président, que l'Assemblée nationale est devenue presque une chambre d'enregistrement, que la justice n'est pas indépendante. Vous avez vu le dernier rapport d'Amnesty International, l'intitulé c'est le Sénégal terre d'impunité.
Oui, effectivement. Oui, Alioutine, on va parler un petit peu de la société civile. Alors, selon des sources dignes de foi, les Baliens du Sénégal se préparent à de nouvelles manifestations dans les prochains jours. Et c'est suite aux coupures de l'électricité. Est-ce que pensez-vous vraiment que les jeunes sont manipulés par l'opposition, Alioutine?
Non, pas du tout. Il n'y a pas de manipulation de l'opposition, hein. On le dit, je ne pense pas que les organisations de la société civile sénégalaise se laisseraient manipuler par les partis politiques, ni l'inverse. Donc il s'agit bien entendu d'un climat social très délétère, les coupures d'électricité sont très fréquentes, et vraiment ça touche le petit peuple. Donc ça touche les tailleurs, ça touche les menuiseries métalliques, ça touche beaucoup de petites et moyennes entreprises. Sans compter maintenant les ménages. Vous avez des coupures de 48 heures, comme vous le savez. Hein. On est au mois de Ramadan, quand les gens ont préparé quand même les trucs pour la nourriture de l'après-midi et que tout se gâche, tout pourrisse, ça crée des problèmes, ça crée des mécontentements. Donc, le 27 juillet, d'ailleurs, c'est les coupures d'électricité qui avaient créé les émeutes du 27 juillet.
Oui, à Léoutine, et lors d'une conférence de presse que vous avez animée fin juillet dernier en Côte d'Ivoire, et pour sensibiliser la société civile africaine, vous avez invité les Sénégalais à faire bloc contre la candidature annoncée du président Ouad, vous venez encore de le dire, hein, à la prochaine présidentielle de 2012. Mais Ouad n'entend pas pourtant changer d'avis. Et comment se présente alors la situation politique au Sénégal à l'approche des élections présidentielles?
Écoutez, il y a beaucoup d'incertitudes pour les présidentielles, du fait vraiment de l'entêtement du président de la République, à faire un peu comme ce que Mamadou Tandja a fait avec la Tazartier, faire un forcing et vraiment essayer d'avoir un troisième mandat qui est inconstitutionnel. Ce qui se passe, c'est que il y a quelque chose d'inédit au Sénégal avec le M23 qui réunit vraiment des organisations citoyennes pour dire non à Abdoulaye Wade. Et ça, il faut suivre vraiment les événements qui vont venir ces mois à venir pour dire que ça ne va pas être facile pour Abdoulaye Wade.
Oui, à Léoutine, plusieurs centaines de milliers de personnes, selon nos informations, ont assisté samedi dernier à Dakar à un meeting du président sénégal Abdoulaye Wade. Est-ce qu'on peut dire que c'est une démonstration de force destinée à soutenir, par exemple, la candidature du président Wade et qui venait d'être contestée par des milliers d'opposants au Sénégal?
Écoutez, Wade a été véritablement traumatisé par les événements du 23 juin. Et pour essayer d'effacer, si vous voulez, l'impact de ces événements, donc il a fait beaucoup de manifestations, y compris, bien entendu, ce meeting du 23 juillet, mais il fallait être là pour voir tout simplement que... bien. Donc, pour voir tout simplement que Abdoulaye Wade avait amené des gens en bus. Vous savez, ici, vous pouvez presque louer des gens. Hein. Donc, on a loué beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, c'est vrai, mais tous étaient amenés par des bus. Ils avaient des perdièmes qu'on leur avait donnés. Ça n'a rien à voir avec la manifestation du 23 juillet organisée par le M23. Où les gens sont venus spontanément, des gens de qualité, pour dire non à la candidature d'Abdoulaye Wade. De toute façon, aujourd'hui, le régime de Wade a atteint un niveau d'impopularité jamais égalé depuis 2000, hein, parce que tout simplement, il y a énormément de problèmes sociaux. Là, avec la pluie, il y a beaucoup d'inondations à Dakar, à Touba. Dans beaucoup de villes du Sénégal, les gens, ils ont carrément l'eau dans les salons et partout. On n'a pas prévu de trucs pour dégager, la situation est difficile. Donc tout ça, c'est des problèmes sérieux pour le président.
Bref, ils en ont le ras-le-bol. Alors, Aliou Thune, êtes-vous politicien ou avez-vous l'ambition de se positionner comme futur candidat à la présidentielle? Bon, sinon, qu'est-ce qui justifie votre descente dans les rues le 23 juillet dernier et votre sortie politique, Aliou Thune?
Pas une sortie politique. Nous sommes dans la société civile. Nous ne sommes pas candidats à la présidence de la République et nous sommes conscients et parfaitement conscients que la vocation des organisations de la société civile, c'est pas de conquérir le pouvoir. Donc pour nous, c'est clair, c'est très net dans notre tête. Mais il n'est pas question quand même de rester les bras croisés quand il y a des chefs d'État qui violent la Constitution. Donc nous ne travaillons que pour lutter, résister, pour éviter quand même que la Constitution ne soit violée. Vous savez, Abdoulaye Wade a modifié la Constitution à 16 reprises. La 17e fois, nous avons dit non avec le problème du ticket présidentiel. Et maintenant également, nous disons non parce qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Vous savez, quand c'est arrivé dans certains pays, ce sont les proches du président eux-mêmes qui effectivement s'opposent à ce que le président de la République viole son troisième mandat. C'est arrivé au Mali du temps, bien entendu, de Alpha Omar Konaré, où Ibeka, le premier ministre, lui a dit « Non, vous devez respecter la Constitution ». C'est arrivé également au Nigeria, où le vice-président a dit à Obasanjo « Vous ne pouvez pas modifier la Constitution pour avoir un troisième mandat ». Malheureusement, les compagnons et les proches de Ouad n'ont pas le courage ici au Sénégal de dire au président de la République « Vous violez la Constitution, vous n'avez pas le droit ». Mais il y a beaucoup de citoyens sénégalais aujourd'hui, et certains même sont dans le parti au pouvoir, et il y a des avocats, il y a des juristes, pour dire que le président n'a pas droit à un troisième mandat. Parce que lui-même l'a proclamé à la télévision qu'il n'avait pas droit à un troisième mandat. Donc, la lutte, c'est la lutte pour protéger la Constitution, pour la lutte pour le respect de la Constitution du Sénégal. Et bien entendu, d'autres l'ont fait avant nous, hein, et en s'alliant avec tous les démocrates du pays. Ça a été le cas au Niger, avec Mamadou Tani. Ça a été le cas, effectivement, avec, en Guinée également, où les forces vives ont combattu, bien entendu, comment il s'appelle encore, Dadis Camara. Voilà, ici au Sénégal, on l'a fait, c'est une grande alliance, je dirais, citoyenne, donc pour éviter que Ouad ne viole la Constitution avec son troisième mandat. Parce qu'il est élu avec, ça sera véritablement un coup d'État, et ça va créer le chaos dans ce pays.
Et Aléoutine, parlons maintenant un peu des droits de l'homme, puisque vous êtes vous-même un grand défenseur des droits humains en Afrique. Alors Aléoutine, dans certains pays de l'Afrique, tels que la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée-Bissau, la Somalie, et le Sénégal, votre pays, et le respect de la dignité humaine est toujours bafouée. Alors, après 20 ans d'existence de la RADO, et qui est la rencontre africaine des droits de l'homme dont vous êtes le président, alors est-ce que votre objectif n'est-il pas un coup d'épée dans l'eau, bref, un échec, Aléoutine ?
Non, il y a eu quand même des pays qui respectent la démocratie, qui respectent les droits humains. Je peux en citer en Afrique de l'Ouest, hein. Vous avez le Cap-Vert, vous avez quand même le Mali, où il y a des efforts qui sont, vous avez le Ghana, où des efforts sont faits, vous avez le Bénin, malgré quand même certaines réserves, on peut dire quand même que le Bénin s'est doté quand même d'un certain nombre quand même d'organes pour protéger les droits humains. Donc, quand même, il y a un certain nombre d'efforts. La Côte d'Ivoire, vous le savez, c'est difficile, c'est depuis les années 95, depuis la mort de Oufouet Boigny, qui n'a pas préparé une nouvelle génération. Et il est évident, effectivement, que la génération après Oufouet Boigny, c'est à peu près les mêmes générations qui posent les mêmes problèmes une fois arrivés au pouvoir. Hein, les anciennes oppositions, comme Gbagbo, comme Ouad, comme Tandja, en réalité, qui viennent avec la culture du parti unique, qui arrivent quand même à être à la tête de l'État et à nous faire régresser en matière démocratique. Le plus scandaleux, effectivement, dans les droits humains, c'est les droits économiques, sociaux et culturels. Qu'on nous dise qu'en Somalie, il y a la famine, qu'on nous dise qu'au Kenya, il y a la famine sur la côte de l'Afrique à cause de la sécheresse, je trouve que quand même c'est un scandale et c'est une catastrophe pour l'Afrique. Et c'est quand même terrible pour l'image de l'Afrique, l'image des catastrophes, l'image des conflits armés, l'image des meurtres, des viols, de la barbarie. Je pense que il faut en finir et tourner définitivement la page, parce que quand même il y a une responsabilité imminente, y compris des intellectuels, pas des politiciens seulement, parce que il y a quand même, comme on a des mercenaires, il y a des intellectuels mercenaires qui sont prêts à tout pour défendre leur pain. Il est temps qu'on injecte de l'éthique dans la politique, qu'il y ait l'éthique de pouvoir, qu'il y ait de l'éthique de conviction dans le pouvoir. Donc ça également, ça fait partie des 12 travaux, je dirais bien, de la société civile pour faire en sorte qu'on puisse avoir une gouvernance, je dirais pas bonne seulement, mais une gouvernance légitime, qu'on ait une citoyenneté qui soit quand même responsable, ou qu'on ait la responsabilité citoyenne. Comme vous l'avez un peu aussi en Suisse, hein, les Suisses sont de véritables citoyens. Donc, il faut faire en sorte de relever encore la conscience citoyenne pour permettre, pour éviter ce qui nous arrive souvent en Afrique. Parce que quand même, quand on va se battre, c'est les problèmes de discrimination raciale. C'est contradictoire. Nous qui sommes victimes souvent de discrimination raciale, c'est à cause de la discrimination, effectivement, que nous avons des conflits armés, que nous avons des guerres, parce que nous avons des partis ethniques, parce que nous avons des partis régionalistes, parce que nous avons des partis religieux. Il faut en finir en Afrique. Et la faute incombe encore une fois en partie, pas seulement aux politiques, mais également aux élites intellectuelles.
Aléoutine, merci. Je rappelle à nos fidèles auditeurs et auditrices de Radio Canal K dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique que vous êtes panafricaniste, président de la RADO, rencontre africaine des droits de l'homme. Aléoutine, merci et excellente soirée à vous depuis Dakar au Sénégal.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Oui, eh bien, avant de prendre notre invité, Brigitte Amengame de Synergie au Togo, et qui est actuellement au Togo à Lomé, nous allons d'abord prendre tout de suite notre correspondant, Rudy Lawson, qui est en ligne déjà. Nous allons tenter de le prendre. Rudy Lawson, bonsoir.
Bonsoir Sylvain, bonsoir aux éditeurs de Radio Canal K.
Rodrigue, merci d'être en direct avec nous, en direct depuis Lomé, dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Rodrigue, l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement, est en tournée au Togo. Quel écho peut-on avoir de cette tournée de l'ANC? On sait également que le FRAC, Front Républicain pour la Tenance et le Changement, est toujours dans les rues de Lomé, contestant ainsi la réélection de Fonia Singbe. Alors, Rudy Lawson, quel est le message concret qui a sanctionné la marche de ce samedi à Lomé?
Mais d'abord, la tournée de l'ANC rapidement, l'ANC qui est à la conquête des cantons de la région de Plateau, on va le dire, les premiers responsables de l'Alliance nationale pour le changement ont entamé depuis dimanche une nouvelle étape de leur tournée nationale d'information et de mobilisation des populations. Après donc Agou, Palimé, Atakwame, Jean-Pierre Farre et les siens sont actuellement à la conquête des populations du Grand Plateau. Et dimanche, la délégation était dans la préfecture de Logou et a visité les cantons de Gliyi, Dacha, Avagome et Bokon, où elle a été accueillie avec enthousiasme et joie par les populations venues très nombreuses écouter les messages de la nouvelle formation politique. Le lendemain, Jean-Pierre Favre, Patrick Lawson, Éric Dupuis et les autres ont visité les populations de Ouzougou, de Outibou, d'Apparaît et de Lama avec les mêmes messages. Là aussi, ils ont été accueillis dans une rare liesse. La population saisit l'occasion pour dénoncer et condamner la politique clanique et régionaliste du pouvoir PT et rappeler les crimes impunis du major Koulum ainsi que ces menaces continuent sur la population de la région. Des doléances ont également été présentées aux responsables de l'ANC. Parmi les nombreuses doléances formulées, on peut relever la construction de routes, l'éclairage dans les villes, les villages, la rénovation et la création d'écoles et de cours secondaires, etc. En effet, les infrastructures sanitaires, scolaires et routières sont dans un état de délabrement avancé dans ces cantons. Le désespoir a donc regagné les rangs de cette population qui dit avoir le sentiment que leur localité n'appartient pas à la communauté togolaise, tant elles se sentent abandonnées. Sur le plan, la visite des populations de la préfecture de l'Est, Mono, a marqué l'étape de mardi 16 août 2011. Malgré l'état défectueux des pistes, la délégation de l'ANC s'est rendue dans les localités enclavées comme Badin, Kofé, Aloko, Mouritan, Pissi et Niamasila. En tout cas, la mobilisation de ces localités reculées et leur enthousiasme a même surpris les visiteurs. Nos compatriotes sont parfaitement informés de l'évolution de la situation sociopolitique de notre pays. L'ANC peut se féliciter qu'en si peu de temps, elle ait pu s'implanter autant d'efficacité dans tous ses coins. C'est réjoui M. Éric Dupuis, qui est le secrétaire national à l'information de l'ANC. Mais plus différente, Sylvain, a été l'étape de la fête compagnie à Grito, à Tilédi, à Debevou et plus à Hoké, comme à Agné. Les populations se désavouent publiquement le changement de veste politique de M. Dupuis Tolimpio et expriment ouvertement leur divorce avec l'Union des forces de changement. À Grito, plus précisément, Des jeunes ont démontré publiquement leur adhésion à l'ANC en enlevant leur t-shirt USC de la campagne électorale de mars 2010 pour se vêtir aux couleurs de l'ANC. Dans l'ensemble, les populations de la localité visitée ont témoigné leur gratitude à Jean-Pierre Favre et sa suite pour leur ingénieuse idée de créer cette nouvelle formation politique qui est un cadre dans lequel tous les Togolais qui aspirent au changement peuvent se retrouver en vue de continuer le combat pour une véritable instauration de la démocratie. Et ce midi, les autres responsables de Lomé ont entretenu la foule au cours du traditionnel meeting hebdomadaire du FAT en présence de la vice-présidente de Synergie Togo, Madame Brigitte Améganis, qui a justement présenté brièvement Synergie Togo et le rôle qu'elle joue dans l'avènement, de la démocratie et de l'alternance au Togo. Elle a également effleuré l'indispensable réforme institutionnelle et constitutionnelle avant qu'elle n'arrange la foule. Retenez que c'est des matantis de la jeunesse de l'ANC qui a éclairé l'opinion sur la position du parti. Face à la relance du dialogue annoncé par le gouvernement, nous sommes ouverts à tout dialogue franc et sincère, équitable et crédible, à ce titre, se référant bien entendu à la déclaration du parti rendue publique hier.
Oui, et Rodrigue Lorson, on parle cette semaine à Lomé de relance politique du dialogue au Togo. Alors, beaucoup se demandent si l'on ne s'achemine pas à nouveau à un énième marché de dupes du président Faure Gnassingbé.
Oui, c'est au cours d'un conseil des ministres extraordinaire tenu vendredi sous la présidence de Faure Gnassingbé que l'idée de dialogue a été évoquée avec, à l'appui de nouvelles déclarations. Si l'on suppose que depuis 2006, après la signature de l'accord politique global et les nombreuses revendications et dénonciations des forces démocratiques, le dialogue aurait été rangé dans les placards s'il existait une volonté réelle de le faire. Il y a bien des raisons de se demander si cette fois pourrait être la bonne. En tout cas, dans le conseil des ministres de vendredi, dont le dialogue politique national était le sujet principal, le gouvernement a d'abord fait un état des lieux des questions politiques et notamment électorales qui constituent, on va le dire ainsi, des sources de fâcherie endogène. Le compte rendu du dit conseil, une communication du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Pascal Akosola-Lobodouran, a porté sur la mise en œuvre des recommandations de la mission d'observation électorale de l'Union européenne et des réformes institutionnelles et constitutionnelles prévues par l'accord politique global. Aussi, la communication du ministre Bodouran a relevé d'une part les recommandations de la mission d'observation de l'UE et de l'autre les grandes prescriptions de l'accord politique global restées jusque-là, lettre morte. Dans la majorité, il faut préciser qu'au chapitre des recommandations, la communication, il s'agit des recommandations spécifiques concernant la préparation des élections locales et législatives qui auront lieu en 2002. La communication du ministre Bourdon a également récité les mesures contenues dans la PG du 20 août 2006. En substance, si vous le permettez rapidement, elle a énuméré les réformes générales, à savoir la sécurité et la paix publique, le respect des droits humains, l'équité et la transparence des élections, le mode de scrutin, le découpage électoral, le renforcement de la haute autorité de la communication, etc. Les réformes institutionnelles et constitutionnelles et proprement dites, c'est-à-dire le régime politique, la nomination et les prérogatives du Premier ministre, les conditions d'éligibilité et la mandature du chef de l'État. En tout cas, Sylvain, rien de nouveau, tout en résistant à la tentation de soutenir, comme certains compatriotes, qu'il y a trop de mauvaise foi dans la politique nationale. On doit avouer à l'évidence que ce qui se fait et se dit dans le dossier du dialogue ressemble fort bien à cela. Autrement, Sylvain, on ne saurait comprendre les différentes palinodies offertes par la Fondation de l'RPT. Pourquoi faut-il organiser un conseil des ministres extraordinaire juste pour annoncer ses intentions sans précision ni sans engagement? Pourquoi en effet faire autant de bruit et de solennité pour une simple déclaration d'intention? Et pour beaucoup de citoyens, ces remarques sont justifiées par le caractère blasant et redondant des intentions annoncées et réannoncées à plusieurs reprises. Et ce qui a été dit le 12 août, elle a déjà été le 31 décembre 2010, et curieusement, et sous réserve qu'on se méprenne des intentions du gouvernement, on comprend qu'il prépare un grand oral où des partis politiques et des responsables discuteraient des jours durant. Enfin, peut-être 30 partis politiques seraient invités à discuter en vue de trouver un consensus électoral. Et sur la question, justement, il y a à craindre que ne se reproduise la malheureuse aventure du cadre permanent de dialogue de concertation, souvenez-vous, unilatéralement et arbitrairement d'ailleurs révisé et élargi par le gouvernement pour contourner et dresser les taux dans lequel le cas l'IFC à l'époque le poussait en 2009. Sylvain.
Rodrigue Lorson, merci. Toutes nos excuses pour la qualité du son. Rodrigue Lorson était en direct depuis Lomé. Sûrement que le réseau téléphonique dérange à Lomé. Et Brigitte Améganvi, vice-présidente de Synergie Togo, est également en ligne depuis Lomé. Nous allons aussi tenter de la prendre tout de suite. Bonsoir, Madame Brigitte Améganvi.
Bonsoir, Sylvain Amos.
Merci d'être en direct dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique depuis Lomé. Alors, vous êtes vice-président de Synergie Togo, une association implantée en France. Et pour nos auditeurs, Synergie Togo a pour objectif la défense ainsi que la représentation des droits et intérêts de la diaspora togolaise dans tous les pays, et tant dans les pays d'accueil qu'au Togo. C'est ça, Madame Brigitte Amegavi?
C'est ça, oui.
Exactement. Vous êtes actuellement à Lomé et vous êtes descendu dans l'arène aux côtés de l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement, et aussi de ce front, le FRAC, pour manifester contre la réaction de Fornia Singbé. Dites-nous franchement, Brigitte, est-ce que l'heure est-elle encore à la manifestation ou à la reconstruction d'un Togo affaibli et meurtri par plusieurs années de soulèvements et de revendications? Vous n'êtes pas sans savoir que le FRAC est dans les rues depuis chaque samedi depuis plus d'un an, Brigitte Amegavi.
Oui, je crois que c'est un peu erroné de considérer les manifestations du samedi qui sont à leur 14e, 15e mois aujourd'hui, comme une simple manifestation de ou contestation des résultats de l'élection de mars 2010. Il s'agit véritablement de rendez-vous citoyens. C'est effectivement de cette manière-là que je les considère, moi, et c'est à ce titre-là que j'y participe en tant que citoyenne, parce que les sujets qui ont fait le fil conducteur des interventions d'aujourd'hui concernent l'assassinat de Assoussé Agoubli, l'importation de riz contaminé, la commercialisation de riz contaminé au Togo, les questions concernant le dialogue et les préalables au dialogue, donc toutes questions qui sont plutôt des questions qui interpellent tous les citoyens togolais et qui sont dont la solution de ces questions est indispensable à l'évolution de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance au Togo.
Oui, et Brigitte Amegavi, et les conseils des ministres du 12 août dernier s'est spécialement penché sur le désir du chef de l'État d'élargir le dialogue de l'APG à l'opposition, au but de Agome Kodjo, le car ANC se dit prêt à aller à ce dialogue, mais pose des conditions. Et l'ANC, par exemple, se dit ouverte à toute discussion approfondie qui offre des gages d'équité, de crédibilité et de sincérité, hein, permettant l'adoption consensuelle des réformes politiques indispensables à la mise en place des différentes structures qui seront chargés de conduire ces réformes. Brigitte Amegavi, comment analysez-vous la volonté d'ouverture du dialogue et d'innovation du président Faure?
Je ne sais pas si on peut véritablement parler de volonté de dialogue et d'ouverture. En tout cas, rien ne permet aujourd'hui de considérer que cette annonce de dialogue dit inclusif soit une volonté ou une annonce sincère. Le véritable problème qui mine la société togolaise, c'est un problème de confiance entre les dirigeants et les citoyens togolais. Un problème de confiance lié à une multiplication des promesses non tenues, une persistance des assassinats politiques et une résurgence de la torture comme étant un point important, un moyen de pression sur les leaders politiques, les journalistes et toutes les personnes qui luttent ou militent pour la démocratie et l'état de droit au Togo. Dans cette circonstance, il est difficile de considérer que l'annonce faite par le chef de l'État, le président Fornia Singbé, d'un dialogue inclusif, il est difficile de considérer cette annonce comme étant sincère. Mais en tout cas, ce que la plupart des intervenants, des participants à la vie politique togolaise disent, c'est que il faut des signaux forts, il faut des éléments, des preuves palpables de la sincérité de cette volonté de dialogue. Et c'est à ce niveau qu'interviennent les conditions, les préalables qui ont été définies par un certain nombre de partis politiques. Préalables d'ailleurs qui sont basés sur le fait que il s'agit simplement de revenir sur des violations de la Constitution togolaise ou bien de revenir sur les conséquences de, d'actes qui sont des dénis de droits, qui sont des actes par lesquels les autorités togolaises elles-mêmes ne se sont pas conformées, ont violé la loi togolaise. Et effectivement, le discours consiste à la position des partis qui ont posé des préalables consiste à dire qu'il n'est pas nécessaire de dialoguer pour que le gouvernement RPT, le régime RPT, respecte la Constitution et respecte la loi.
Oui, et Brigitte Amegamvi, le désir ardent d'être togolais à l'extérieur du pays et de rentrer chez soi un jour, hein, vous qui êtes de la diaspora en séjour court au Togo, pensez-vous que l'atmosphère politique est propre au Togo et pour un retour au bercail?
Ben effectivement, il y a ici et là des initiatives qui sont prises pour favoriser le retour de la diaspora, soit définitivement, soit temporairement, en faisant jouer certains dispositifs qui ont été mis en place par le PNUD et d'autres organisations internationales. Mais il est vrai que c'est difficilement envisageable de d'inciter ou d'attirer les Togolais de l'étranger si l'état de droit tarde à se manifester, à s'imposer, et s'il n'y a pas une sécurité et des garanties qui sont apportées à ces personnes qui rentrent. Parce qu'effectivement, certaines personnes prennent la décision de rentrer, d'autres retournent après avoir fait une expérience qui dure entre 6 mois et 1 an, retournent à l'étranger parce que déçus par l'évolution de la situation. Mais là aussi, je dirais que pour favoriser véritablement un retour des Togolais de l'étranger, il y a des signaux importants, des actes importants qui doivent être posés, encore une fois, pour faire la preuve de la sincérité de ces intentions qui sont annoncées. Pour donner deux exemples, Joachim Agobli, dont nous commémorons le troisième anniversaire de l'assassinat, était aussi un de nos frères de la diaspora qui a pris l'option de rentrer au Togo pour aider au développement du pays. Il a disparu dans des conditions qui sont jusqu'à présent officiellement inexpliquées. Je parlerai également du cas des éperviers, hein, de l'équipe nationale du Togo, pour lesquels Adebayo, Obilalé et d'autres se sont investis. Vous savez tous où en est Obilalé aujourd'hui, et la carrière d'Adebayo est quasiment brisée parce que le traumatisme subi au cours de cet attentat de Kabila, il n'a pas pu l'intégrer et il n'y a aucune assistance, les assurances qui ont été mises en place pour couvrir ces déplacements des éperviers ne permettent pas de compenser les dommages qui ont été causés à ces personnes qui ont mis leur talent et leur expertise à la disposition de la renommée du nom de l'équipe togolaise.
Oui, et Brigitte Amegamvi, maintenant vous êtes au Togo, maintenant vous êtes sur le terrain chaud, hein. Alors, pour vous, qu'est-ce que la diaspora doit apporter pour ce combat politique, pour ce combat pour un changement d'un état de droit au Togo?
Écoutez, une partie de l'équation est également internationale quand même, parce qu'il s'agit d'informer la communauté internationale, la réalité de la situation togolaise, parce qu'on a parfois l'impression qu'il y a une perception des problèmes togolais qui est différente de ce qu'est la réalité. La diaspora doit elle aussi se mobiliser aux côtés de des frères, des parents qui sont restés sur le terrain. Elle doit continuer, mener le combat, participer au combat pour les Togolais du pays. Mais aussi, il est dans son intérêt aussi que les choses évoluent au Togo pour qu'ils puissent rentrer chez eux et donc exercer les métiers qui sont les leurs, les formations qu'ils ont acquises, l'expérience qu'ils ont acquise à l'extérieur pour construire ce pays et bâtir ce pays qui, je peux vous le dire, est véritablement dans un état de destruction inimaginable. Il n'y a plus d'infrastructure routière. Effectivement, on vous dira que Lomé est en chantier, mais la gestion de ces chantiers est tellement chaotique, tout a été cassé et les choses avancent réellement à pas de limaces, à pas d'escargots, à tel point que il faut réellement se prendre la tête lorsque l'on a le moindre déplacement à faire en ce moment dans la ville de Lomé, et ne parlons pas de l'état des routes à l'intérieur du pays, y compris dans les zones agricoles qui réellement sont déclarées le fer de lance du développement du pays et qui, cette année, ont réellement connu des productions agricoles absolument exceptionnelles. Il n'y a pas d'infrastructure routière pour faire évacuer ces productions vers les différents marchés.
Oui, et Brigitte Amengavi, effectivement, il est inévitable que le peuple ou la population togolaise souffre et que le pays est en crise et que tout est en hausse au Togo. Alors, à part les critiques, que proposez-vous réellement pour la relance économique dans votre pays? Et ce sera la dernière question pour finir avec vous cet entretien, Brigitte Amengavi.
La relance économique est de la responsabilité des gouvernants. La société civile ne peut que faire mener des petites actions humanitaires, de replâtrage, de ci, de là. Mais quand il s'agit d'une politique de développement et de la planification d'un développement économique d'un pays, bon, il s'agit il y a deux choses qui sont nécessaires. Il faut d'abord des gouvernants qui aient une volonté politique de développer le pays pour l'ensemble des citoyens et non pas seulement pour leur propre bien-être économique et social. Et il faut une deuxième chose, c'est que si ces gouvernants ont véritablement la volonté politique pour développer le pays, il faut un minimum de planification à 10 ans, à 20 ans, à 5 ans, de ce qu'ils ont l'intention de faire, des objectifs et des moyens qui sont disponibles pour faire évoluer l'économie du pays. Et c'est malheureusement, ces deux éléments manquent cruellement dans le pays actuellement. Et je dirais que de toute façon, tout cela n'est possible que s'il y a une bonne gouvernance, si la démocratie est là, et si, comme je le dis habituellement, si les dirigeants du pays savent qu'ils doivent rendre des comptes à leurs électeurs, c'est-à-dire si les élections sont transparentes et si la vérité des urnes est au rendez-vous.
Brigitte Amengavi de Synergie Togo, merci.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
Eh bien, en Côte d'Ivoire, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a été formellement inculpé jeudi dernier et placé en détention préventive pour crimes économiques ainsi que son épouse. Pour bon nombre d'observateurs, la justice ivoirienne vient de mettre fin à un vide juridique autour du cas Gbagbo, assigné en résidence depuis le mois d'avril sans être inculpé. Selon les informations, de son côté, la Cour pénale internationale veut ouvrir aussi un procès sur les crimes de sang commis pendant la crise post-électorale. Si ce procès sera effectif, le camp Ouattara pourrait ne pas être aussi épargné. Notons qu'il y a 4 mois que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo était toujours placé en résidence surveillée à Korogo, au nord du pays, sans avoir été formellement inculpé. Beaucoup de polémiques se créent également autour des visites qu'on lui refuserait. Nous avons bien voulu en savoir un peu plus sur cette inculpation de Laurent Gbagbo et son épouse. Et pour cette cause, nous allons prendre tout de suite l'un des avocats de Laurent Gbagbo. J'espère que Maître François Epoma est déjà en ligne depuis la France. Maître Epoma, bonsoir.
Bonsoir, cher ami.
Oui, comment allez-vous, Maître?
Très bien, ça va.
Alors, merci d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Et vous faites partie du collectif des avocats pour la défense de l'ex-président Laurent Gbagbo. Et le jeudi passé, l'ex-couple présidentiel est inculpé de 5 chefs d'accusation, à savoir vol aggravé, détournement de données publiques, concussion, pillage et atteinte à l'économie nationale. Maître Pouma, avez-vous déjà... Et le contenu du dossier en tant qu'avocat de la défense. Est-ce que vous, comment comptez-vous préparer la défense de l'ex-président Laurent Gbagbo, Maître Epoma François?
Merci pour cette occasion que vous m'accordez. Tout d'abord, j'aimerais préciser une chose. Vous savez, M. Ouattara, c'est comme ce petit crapaud qui, en se gonflant lui-même, voulait penser ressembler à cet éléphant qu'est Laurent Gbagbo en matière de gestion de gouvernance d'un État. Pour revenir à votre question, nous n'avons pas encore l'intégralité du dossier. Ce qui se passe actuellement, vous vous rendez compte vous-même que Gbagbo est inculpé 4 mois après qu'il soit arrêté. Je vous rappelle aussi que la mise en résidence surveillée ou sous condition est une décision qui doit être prononcée par un juge. Donc là encore, on va peut-être revenir là-dessus tout au long de cette émission. Vous voyez bien que Ouattara est entouré, on ne sait pas si ce sont des aventuriers. Je disais à un de vos collègues la dernière fois que certainement il y a un magistrat qui est sorti des faubourgs d'Abidjan qui a pensé estimer que Gbagbo pouvait être inculpé 4 mois après, qu'il ait déjà purgé plusieurs mois. On ne sait pas si c'était une garde à vue, on ne sait pas si c'était une décision prise par un juge, mais tout au long de cette mission, nous allons donner des précisions là-dessus.
Oui, merci beaucoup, Maître Epoma. Et pour l'heure, Maître Epoma, l'ancien président n'est pas accusé d'atteinte à la sécurité de l'État, hein, et contrairement à beaucoup de ses proches. Mais le gouvernement Ouattara espère que la Cour pénale internationale, qui n'a pas encore ouvert d'enquête sur les crimes les plus graves, inculpera et transférera à la Haye l'ancien couple présidentiel. Est-ce que c'est possible, Maître Epoma?
D'entrée de jeu. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, c'est un non-événement. Il semblerait que M. Laurent Gbagbo a été arrêté pour crime ou atteinte à la sûreté de l'État. C'était les premiers mots de Ouattara et sa bande. Curieusement, 4 mois après, ils nous sortent cette histoire de crime économique. Mais je vous rappelle simplement qu'il y a eu crime économique effectivement en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas Gbagbo qui a commis ces crimes-là. Les criminels, c'est Ouattara et sa bande qui ont privé les salariés ivoiriens, les clients des banques installées en Côte d'Ivoire, qui sont partis, qui ont fermé les banques, laissant les citoyens ivoiriens démunis, sans leur argent. C'est ça le crime. Le crime, c'est pas parce que Gbagbo a pris des décisions nobles et sages pour nationaliser les banques, parce que ces banques appartenaient à des étrangers, qui, pour des raisons autres que l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt des Ivoiriens, avait décidé de fermer ses banques, privant ainsi les pauvres citoyens ivoiriens de leurs droits élémentaires à aller récupérer leur argent dans ces mêmes établissements. Donc, il n'y a pas eu de crime économique, et Ouattara n'aura pas le courage de poursuivre M. Gbagbo devant la Cour pénale internationale, ni devant une juridiction pénale ivoirienne, pour une raison simple. Toutes les organisations qui s'occupent des droits de l'homme ont fait des rapports. À aucun moment, il y a eu un seul rapport accusant directement ou citant directement M. Laurent Gbagbo d'avoir commis quelconque crime. Mieux, son épouse n'a rien à voir avec ça. Vous comprenez? Donc nous sommes là en face d'une situation complètement absurde, des gens qui, au lieu de gouverner, apprennent à gouverner, et c'est ça la difficulté de M. Ouattara. Alors ce n'est pas parce qu'on était assis tout le temps dans les bureaux des institutions internationales, qu'on peut gouverner un pays. L'Afrique a connu l'expérience des anciens fonctionnaires des institutions-là. Et dans la plupart des cas, c'était des échecs. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le manque de respect des lois. Aussi longtemps que les Africains ne comprendront pas qu'il faut respecter nos lois, ce serait difficile. Un État fort, c'est un État dont les lois sont respectées par les citoyens qui eux-mêmes les ont votées.
Maître Epoma, et si l'ONU conclut que pendant la crise ivoirienne, qu'il y a eu massacre des deux côtés, à savoir rebelles et loyalistes, hein, conseillerez-vous, par exemple, votre client Laurent Gbagbo a porté aussi plainte au TPI contre Ouattara et Soro, les deux présumés responsables du massacre de Dioukoué?
Je tiens absolument à repréciser une chose. Entre le mois de décembre et le 11 avril, date à laquelle le président Laurent Gbagbo a été arbitrairement arrêté, je vous garantis que Gbagbo avait prêté serment de façon légale devant les institutions légales de Côte d'Ivoire. Ce n'est que pour cette raison que l'armée lui était restée fidèle, et c'est l'armée ivoirienne qui a combattu contre les rebelles de Soro, les Dozo et les rebelles venus d'ailleurs, qui combattaient l'armée régulière. Donc, dire aujourd'hui que Gbagbo a commis des crimes, c'est un simple mensonge. On ne peut pas alléguer aujourd'hui. D'ailleurs, nous mettons quiconque à défi de nous dire quels sont les ordres que Gbagbo aurait donné à quiconque de tuer quiconque. Cependant, Ouattara, nous avons vu des films avec des miliciens comme les Ouattara et autres qui disaient « Nous allons mater ces Ivoiriens-là, nous allons les tuer ». Ils l'ont dit, y compris Soro et Ouattara. Donc, si l'ONU estime que des deux camps, il y a eu des dérapages, il va falloir que l'ONU regarde les textes ivoiriens et que l'ONU s'adapte un peu à notre époque. Nous ne sommes pas en 1945 où l'Afrique était des territoires occupés. Nous sommes en 2011. Il faudrait que l'ONU s'adapte à cette époque de 2011 et considère ces États comme des États souverains, respectant leurs lois. Et si on veut juger les Ivoiriens, il faut les juger en tenant compte des dispositions légales encore en vigueur dans ce pays. Donc, nous conseillons à notre client d'aller d'attaquer Ouattara, mais d'ailleurs, la Cour pénale prévoit dans ses dispositions que le procureur peut s'autosaisir. S'ils sont convaincus, tellement convaincus, que Gbagbo avait commis des exactions, je ne suis pas sûr qu'ils auraient changé de chef d'accusation pour arriver au crime économique.
Maître Epoma, une dernière question. De qu'on pense qu'il y a lieu de dénoncer et de craindre une justice des vainqueurs sur le nouveau président ivoirien Ouattara? Comment interprétez-vous cela, Maître Epoma François?
Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un non-événement. Vous savez, Ouattara est arrivé quand on gagne les élections, dans toutes les démocraties du monde. Quand vous gagnez les élections, ça veut dire que vous avez le soutien de la majorité de la population avec vous. Donc, cela se traduit sur le terrain, c'est-à-dire dans le pays, par une manifestation de joie et d'allégresse. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont dans un état de deuil perpétuel parce qu'ils réclament leur leader, leur chef, le président qu'ils ont choisi. Si Ouattara était l'élu des Ivoiriens, ça se saurait. On le vivrait tous. On l'aurait constaté. Rien ne fonctionne à Abidjan. Rien ne marche en Côte d'Ivoire. Donc, vous constatez par vous-même, vous êtes journaliste, demandez à vos confrères qui sont en Côte d'Ivoire quel est le climat aujourd'hui. Ouattara n'a jamais fêté sa victoire. Il n'a jamais visité le pays. Vous savez, quand un homme est élu à la magistrature suprême, on célèbre généralement les 100 jours. J'ignore encore si Ouattara a célébré ses 100 jours en tant que président de ce pays, ni Soro, ni quiconque. Vous comprenez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est classée, toujours selon les Nations Unies, parmi les pays les plus dangereux de la planète. Pourquoi? Parce qu'il y a des miliciens. Et il y a aussi des forces occidentales étrangères qui occupent ce pays, parce que la sécurité est assurée par les licornes qui ne sont que des militaires français. Vous voyez, donc on est là en face d'une situation, d'une dictature qui ne dit pas son nom. En quelques mois, Ouattara nous rappelle à la fois, de façon cumulative, le régime de Mobutu, le régime de Bokassa et de toutes ces dictature que notre continent a connue. Et c'est honteux.
Merci beaucoup, Maître Epoma. Malheureusement, nous tirons vers la fin de cette émission. Merci quand même d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Je rappelle à nos fidèles auditeurs de Radio Canal 4 dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique que vous êtes l'un des avocats de Laurent Gbagbo. Encore une fois, Maître Epoma, merci à vous.
C'est moi qui vous remercie.
Encore une fois, nous remercions encore tous nos invités, Aliou Tine depuis le Sénégal, Madame Brigitte Ameyambi du Togo, et tout à l'heure Maître Epoma l'avocat, François Epoma l'avocat de Laurent Gbagbo. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère que on nous a bien suivis sur le www.kanaka.ca. Merci à tous et nos frères africains qui sont toujours au rendez-vous de cette émission. Vous pouvez réécouter cette émission dès demain ou ce soir même sur les trois sites. 3xwtogocity.com, 3xwicilomé.com, 3xwmo5-togo.com ou encore 3xwcvu-diaspora-togo.org. L'émission sera aussi rediffusée demain, dimanche, au Togo, à Lomé, pour les Togolais, bien sûr, et pour tous les Africains vivant au Togo. Vous pouvez réécouter cette émission. La rediffusion sera faite par notre radio partenaire, Légende FM. Merci à vous et excellente soirée à toutes, Sylvain Amos et l'équipe Gisela Rosato, Josué Maoli, Esteban Gagnon et bien sûr nos correspondants à Lomé, Rodi Lawson et Fabi Kwasi.